Merci d'écouter Bac FM 106.1. Pendant deux jours, les ruines de Passy-les-Tours vont de nouveau se peupler de chevaliers, de cavaliers, d'artisans et de campements. Les samedis 12 et les dimanches 13 septembre, l'association Les Tours de Passy organisera la 15e édition de ses médiévales à Varennes-les-Narcis. Au programme Combat en armes, joute équestre, spectacle marché médiéval et le samedi soir, un spectacle nocturne suivi d'un feu d'artifice. Mais derrière les fêtes demeure une préoccupation très actuelle. Comment préserver un château que 6 siècles d'histoire n'ont pas encore fini de fragiliser. Bonjour Clément Pic.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Les Tours de Passy. Bienvenue sur Bac FM.
Eh bien, merci à vous de m'avoir invité pour cette interview.
Avec plaisir. Est-ce que je peux vous demander de présenter Les Tours de Passy?
Oui, bien sûr. On a créé donc cette association de sauvegarde du château de Passy en 2010 avec des passionnés qui étaient sensibles au patrimoine local et à ce château qu'on a toujours connu en ruine finalement.
Alors, j'ai cru lire que le château a été classé monument historique en 2018.
Exactement, donc c'est suite à une démarche de l'association afin de faire évoluer la situation. On n'a pas eu finalement d'autre choix que de demander le classement de ce château, donc il a été classé d'office et en parallèle un décret a été voté pour une mise en demeure sur la restauration de ce bâti. Donc cette mise en demeure forcément a eu une incidence sur le planning et sur la restauration future du château, où le but était en fait d'impulser une contrainte afin de commencer un chantier. Forcément, il y a plusieurs étapes à respecter, les délais sont assez longs et on espère commencer, enfin pas nous, mais au moins surveiller ce chantier pour cette année. Il devrait débuter fin d'année.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans? Est-ce que vous êtes un passionné d'origine?
Oui, bah moi je suis du coin, on est tous du coin et c'est un des châteaux, un des vestiges, on va dire en stand-by dans la Nièvre qui porte un intérêt certain sur l'histoire locale. Donc je pense que s'il y avait un réel intérêt initial sur le château, sur l'histoire locale, et voilà, c'est une passion comme tant d'autres, mais c'est chronophage, mais c'est passionnant.
Alors justement, vous organisez les médiévales, c'est la 15e édition cette année. Pour les gens qui n'auraient pas participé aux 14 premières, c'est quoi les médiévales?
Les médiévales, c'est un gros travail en amont pour pouvoir rassembler sur un site qui ne dispose pas de confort, puisqu'on se trouve dans un champ face au château. Le but, c'est de d'être en immersion totale pendant deux jours et se confronter à la vie de campement à l'époque médiévale, avec le château en cadre, pour fédérer les gens sur le but de notre association et de ce château. Donc, durant deux jours, on s'attache à respecter l'esprit d'un camp médiéval, avec la vie de camp, des gens en armes, des musiciens, des troupes d'animation, etc., etc. Avec un clou le samedi soir, avec nos spectacles de feu qui est unique dans la Nièvre.
Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année par rapport aux éditions précédentes?
Oui, bien sûr, on essaie toujours de renouveler un petit peu nos troupes pour que le public ne se lasse pas. Donc vous verrez des nouvelles troupes. C'est pas simple de toujours renouveler intégralement un campement. On aura toujours des éléments moteurs et des attractions clés qui font que, bon, on peut pas tout renouveler, mais on essaye toujours de proposer des nouveautés aux spectateurs. Le but étant quand même, notre démarche, c'est d'intéresser quand même les enfants pour que la relève se fasse plus tard.
Et on y reviendra. Vous parliez à l'instant d'attractions phares. Est-ce que vous voulez citer quelques activités qui représentent bien le festival?
Oui, bien sûr. On a la tour d'escalade. On a nos cavaliers qui viennent de Bretagne. On a le spectacle du samedi soir qui est organisé avec la participation des éléments de chaque compagnie. On demande à chaque compagnie d'intégrer ce projet de spectacle et de fournir des hommes et des femmes pour participer à ce petit son et lumière. Donc Vous retrouverez les tirs au trébuchet et ce genre de choses qui amusent le public.
Est-ce que justement le public pourra participer à certaines animations ou est-ce que c'est vraiment un concept d'avoir un spectacle et de le regarder sous forme de tribune ?
Alors, on n'a pas les capacités financières d'installer des tribunes. Par contre, plusieurs spectacles dans la journée sont effectivement participatifs. C'est-à-dire que les troupes invitent les gens souvent dans leur scénette ou dans leur mise en scène. Et ce qui donne un côté un peu burlesque à certaines situations. Et le spectacle du soir, c'est vraiment un spectacle visuel où là, pour le coup, le public se met autour de la lisse et apprécie les différents tableaux de notre spectacle.
Alors il y aura des chevaliers, des combats, des costumes aussi, j'imagine.
Bien sûr.
Une fête médiévale, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi que ça donne une image un peu romancée ? Comment vous trouvez la balance entre le côté historique, alors peut-être que c'est pas ce qui vous intéresse, c'est le côté un peu fantasme du médiéval, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Si, tout à fait, mais de toute façon, étant donné qu'on a peu d'archives sur le château de Passy, on fait avec ce qu'on a. Après, romancer, on est là aussi pour un public jeune, donc on est là également pour donner envie aux jeunes de s'y intéresser, aux enfants. C'est pas forcément le but de transmettre quelque chose de purement historique, puisque de toute façon, c'est pas ce qui marquera forcément les enfants. Ce qu'il faut leur donner, c'est du rêve, je pense, et puis l'envie de s'intéresser à ce château. Puis plus tard, quand ils auront un bagage culturel, effectivement, pouvoir approfondir le détail historique, effectivement.
Comment vous choisissez les compagnies qui vous accompagnent ?
Eh bien, écoutez, les compagnies qui nous accompagnent nous envoient des dossiers. On pèse le plus, le moins, ce qui nous intéresse, ce qu'on a déjà, ce qu'on n'a pas, et ce qu'on peut utiliser pour notre spectacle du samedi soir. Le but étant d'avoir une participation et d'avoir une homogénéité sur le site en évitant d'avoir trois fois ou quatre fois la même chose, quoi.
Alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'une des stars du week-end, c'est ce fameux Périnée Gressard, hein, qui revient sur ses terres bourguignonnes. Il s'agit d'un personnage un peu complexe, hein, pour les gens qui ne connaîtraient pas. C'est un capitaine redoutable, hein, qui a notamment tenu à tête les Jeanne d'Arc, mais aussi un homme de guerre qui a changé d'alliance selon certaines circonstances. Pourquoi avoir choisi d'en faire le personnage central des médiévales ?
Vous ne l'avez pas trop mal résumé, parce que c'est un personnage quand même atypique pour l'époque, qui est pas mal, pour le coup, qui est bien documenté par un ouvrage de M. Bossois. Et c'est vrai qu'on a tendance plutôt à mettre en avant Jeanne d'Arc, ce qui est normal pour le côté historique de la guerre de Cent Ans. Mais avoir un personnage local comme ça, qui apporte un peu le revers de la médaille, apporte quelque chose de nouveau sur l'histoire locale. Et ça permet d'enrichir la connaissance des lieux qui ont été occupés par ce type de personnage qui a été effectivement complexe, qui a renouvelé ses alliances, qui les a parfois croisés et qui a permis de s'accaparer plusieurs châteaux, forteresses, territoires sans avoir aucun titre de noblesse, ce qui était quand même une exception pour l'époque.
Combien de bénévoles faut-il pour organiser un tel festival ?
Écoutez, durant la médiévale, sur le week-end, il faut compter environ une cinquantaine de bénévoles. C'est pas un chiffre qui est fixe. Ça dépend de la météo, des affluences, pas mal de paramètres entrent en compte, mais environ une cinquantaine de bénévoles. Ouais.
J'imagine que ça prend un peu de temps de préparer une édition, ça fait combien de temps que vous êtes dessus ?
Oh, bah, faut compter un an. Ah, un an pour préparer l'édition suivante. Donc, une fois que l'édition est terminée, on commence déjà à étudier les propositions de troupes pour l'année suivante.
Vous réunissez au même endroit des chevaux, des armes, des spectacles de feu, d'artifice et plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de visiteurs. Comment préparez-vous la sécurité d'un événement de cette ampleur ?
Pareil, la sécurité se prépare en amont. On dépose des demandes en préfecture pour la sécurité du site, des accès. On a plusieurs parkings pour délester les routes qui donnent accès au château. Puis sur le terrain, on a une sécurité civile et puis des bénévoles qui effectuent les rotations sur les différents endroits à surveiller, notamment le spectacle du samedi soir qui a besoin d'être sécurisé, comme vous l'avez précisé, avec l'utilisation du feu et d'un public.
Le feu d'artifice reste peut-être le moment le plus attendu, hein. C'est un peu culturel presque, les feux d'artifice.
Oui, alors c'est peut-être l'événement le plus anachronique, mais bon, ça fait plaisir à tout le monde. On l'a ancré dans Passy depuis 2 ans maintenant. Il est sympa parce que il est vraiment dans le fond du campement, donc les gens ça leur permet de prolonger la soirée immersion avec ce feu d'artifice qui cloue un peu notre samedi. Donc je pense qu'il va être attendu cette année avec tous les feux qui ont été annulés. Les gens pourront venir voir le feu d'artifice de Passy.
Vous attendez combien de personnes pour cet événement?
Alors, c'est une bonne question. Le plus possible. Peut-être avec un peu de chance sur le week-end, peut-être 3 ou 4 000 personnes.
Et on vous souhaite des millions de personnes.
Oh, peut-être pas, je serai embêté après en termes de logistique. Mais
ça ferait beaucoup de boulot. Après 16 années d'existence, parvenez-vous encore à attirer des jeunes bénévoles pour assurer? Tout à l'heure, vous parliez de relève, justement.
Eh bien, écoutez, les jeunes bénévoles, on suit pour le moment plutôt leurs parents qui viennent prêter main forte sur le week-end. Peut-être qu'on pourra en reparler dans quelques années quand on aura repassé le flambeau, et puis là on pourra effectivement faire le bilan en disant bah tiens, telle personne était bénévole quand il était ado et maintenant le voilà partie prenante de la fête médiévale de Passy. Mais ce serait une belle réussite, on serait content.
Alors admettons que les moyens financiers et administratifs soient réunis, à quoi aimeriez-vous dans l'idéal que Passy les Tours ressemble dans 10 ou 20 ans?
De toute façon, d'un point de vue purement architectural, il a été classé en tant que ruine. Donc, il est hors de question pour la drague de reconstruire un château tel que faisait Viollet-le-Duc au 19e. Donc, dans l'idéal, ce serait un château sécurisé, désengagé de la friche et accessible au public, aux visiteurs, au plus grand nombre. Et pourquoi pas articuler le château avec la fête médiévale en y installant des troupes de campement ou des échoppes afin de finaliser en fait la pérennisation et la viabilité du site.
Les dernières questions pratiques, à quelle heure les portes ouvriront-elles samedi et dimanche?
Alors on accueille le public le samedi à 10h. Elle se clôture aux alentours de 22h30, 23h suivant les retards de spectacle ou peut-être intempéries à voir. Pour le moment, ils n'annoncent pas de pluie. Et le dimanche, ouverture à 10h et fermeture à 18h. Sachant que l'entrée que nous proposons est valable sur les 2 jours.
Le feu d'artifice, donc, il est à quelle heure le samedi?
Bon, faut compter 22h30, 22h45 à peu près.
Est-ce que l'entrée est gratuite pour les enfants?
C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans.
Ok. Est-ce qu'on peut acheter son billet directement sur place?
Vous pouvez l'acheter sur place et je pense que les préventes sont encore accessibles sur Internet.
Le parking est-il gratuit?
Bien sûr, parking gratuit et on a un accès PMR à l'entrée de la fête. Alors, je tiens quand même à préciser que ça reste un champ. Même s'il est broyé, c'est pas non plus une plateforme idéale forcément pour un PMR, mais on a quand même un accès PMR avec un parking PMR.
La dernière question peut-être la plus importante, est-ce qu'on peut se restaurer sur place?
Ouais, tout à fait, on a 6 artisans qui viennent nous proposer leurs recettes médiévales et on a notre buvette tenue par l'association sur place.
Merci beaucoup Clément Pic d'avoir répondu à mes questions.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que les 15e médiévales des Tours de Passy se dérouleront les samedis 12 et dimanche 13 septembre au château de Passy-les-Tours à Varennes-les-Narcis. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations?
Écoutez, vous pouvez aller sur notre page Facebook, les Tours de Passy, ou alors sur notre site internet. Vous trouverez toutes les informations utiles. N'hésitez pas à partager nos actualités sur Facebook. Vous avez également la possibilité de gagner des entrées gratuites.
C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à écouter tous nos podcasts, hein, www.radiobacfm.fr. On est sur Facebook et Insta @bacfm. Et d'ici là, soyez sympas, restez à l'écoute de la radio rock metal. C'est parti.